Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, le dessein de la poésie étant de nous rendre souverains, nous dit René Char, en nous impersonnalisant, nous toucher, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les vantardises de l'individu. Les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort, mais assez haut pour que, ricochant sur elle, ils tombent dans le monde nominateur de l'unité. Ce soir, d'abord, nous nous réjouissons parce que la ville de Toulouse possède un groupe scolaire qui s'appelle le groupe scolaire Georges Maillols. Et Georges Maillols a été un de nos grands présidents de l'université, l'université aujourd'hui qui s'appelle l'université Jean Jaurès, l'université du Mirail. Et c'est également un de nos grands professeurs. Pardon, j'arrête.
La conversation là.
Ah, c'est tout. Que c'était dans le.
Ah oui, j'ai l'impression aussi, moi.
Il y a du monde là.
Il y a du monde. Peut-être dit, mais voilà. Après, on entendait dans les micros là.
Je sais pas
Oh
entendu le
oui.
mot de Guy.
Ah ouais,
oui.
Même la porte fermée?
Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Je croyais que c'était. Il y avait une contrariété d'enregistrement même.
Ah non, mais.
Bon.
Dessein de la poésie étant de nous rendre souverains, nous dit René Char, en nous impersonnalisant, nous toucher, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les vantardises de l'individu. Les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort, mais assez haut pour que, ricochant sur elle, ils tombent dans le monde nominateur de l'unité. Ce soir, d'abord, nous nous réjouissons parce que la ville de Toulouse possède un groupe scolaire qui s'appelle le groupe scolaire Georges Maillols. Et Georges Maillols a été un de nos grands. L'université du Mirail. Et c'est également un de nos grands professeurs. C'est bon. Et il fut un des grands essayistes, en particulier de René Char. On lui doit un livre pour lequel, ici, à Radio Occitanie, nous avons réalisé une émission sur ce livre, qui s'appelle Et ainsi de suite, publié aux éditions Privas. Nous reparlerons d'ailleurs des œuvres littéraires de Georges Maillols, mais je tenais à souligner que maintenant la ville possède, donc son nom est immortalisé. C'était le secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux pendant longtemps, un grand personnage de notre ville qui laisse donc une trace. Et nous sommes très heureux donc qu'un groupe scolaire porte son nom. Alors ce soir, nous allons parler de Michel Déguy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Michel Déguy, un de nos grands poètes, hein, français, parce qu'il y a un livre tout à fait intéressant qui est la nouvelle édition Revue Augmentée de À ce qui n'en finit pas. C'est le titre d'un des recueils de Michel Déguy. Alors, je vais vous lire, je pense, un extrait. Donc, c'est publié au Seuil, la librairie du XXIe siècle. Voilà. Et c'est un livre qui vous coûtera 17 euros. Les fables l'attestent. Nous nous préparons. Ce à quoi nous nous préparons se dérobe. Et nous reportons volontiers dans l'au-delà la rencontre des deux. À nous deux maintenant. Croire, c'est croire qu'il doit bien y avoir un accomplissement, une adéquation, un ajustement. Nos préparatifs sont intenses. Les moyens que nous nous donnons et dont nous disposons, savoir démesurer, dépassent l'objectif. L'objectivité excède l'objectif. Avec tout cet acquis et cet hérité, il, toi ou moi, aurait pu aimer plus, chanter plus, voir plus, réaliser plus. J'attendais mieux, j'étais fait pour autre chose. L'excès de la demande sur l'offre, de la capacité sur la tâche, de l'habileté sur le fatal, de la ressource sur le projet, nous rejette à la malédiction ou à l'insatisfaction, à la fureur, à la stupeur, à la résignation. Vigie au mât du voyage, la terre promise recule, sauf pour celui qui sut se tromper. Bien des fables disent la récompense de l'attente, disproportionnée, imprévisible, grâce sans rapport avec le mérité. Le corbeau, désiré dans la nuit éternelle et la lumière se fit, Simone Veil admirait le mythe esquimau. Bien des fables disent l'inanité lâche de l'attente. Le paysan de Kafka aurait pu franchir le seuil. La précipitation de Don Quichotte, au dehors, lui donne de reconnaître ce qu'il cherchait. Voici le monde enchanté à désenchanter. À la fin, la sortie de l'illusion, l'issue de la sortie, est poétique. Tel Ulysse qui rentre à Ithaque pour y raconter ses aventures, un Ulysse qui réinterprète les Circées et les lotophages, les sirènes et les cyclopes, le chevalier aura dissipé les monstres de son ombre. Icare chut ici, le jeune ambitieux. Il mourut poursuivant une autre aventure. Les illuminations mystiques de la jeunesse, génie, Christ, reconnaissaient le désiré, méconnaissaient l'inespéré. C'est elle, c'est lui, j'aime. Prenant la bougie pour la lumière, le doigt pour la lune, l'ombre pour la proie. Mais les deux termes de la méprise et tout le jeu passionnant de la mésaventure et du malentendu général, c'est bien l'expérience terrestre qui les révèle, la lettre et sa figure. Ulysse, Quichotte, le narrateur. Quel est l'invariant de la recherche qui se maintient? Pour nous, ironiques lecteurs, nous retournant depuis l'outre-fin sur le temps perdu, à travers les leurres de l'anthropomorphose, rien n'aura eu lieu que l'équivocité. Mensonge romanesque en vérité poétique. Ce que tu cherches, cela est proche, est là, et n'est pas cela. Le trésor est dans le chant. C'est le labour de la prose. Le langage tient les choses à distance en accédant à elles, reste donc le paradoxe, l'art électrique de l'oxymore, hein, la haute tension, le paroxysme. Pour en arriver à ce moment ici, qui est de se pencher sur le vide, au balcon du voyage, du week-end, à la peau du dimanche, du crépuscule, détaché, aimant, pérenne et courtois, il a fallu l'histoire, les après-guerres, les héritages, la vitesse, les papiers. Et voici, enfin, à contre-temps, l'oisiveté, le vide, l'inclination zen, l'outre-fatigue. Il fallut repartir. Journée désertie, la mille milliardième de monde, c'est la mienne, par hasard, quelque part en Connecticut, Auvergne, Bohême, Transvaal, Attique, Romagne, son ataraxie automnale, ses bords rouges et bleus d'érable et d'Atlantique, son peu de routine, le marché, la marche, les goûts, sans attache, sans regret, sans découverte, comme un dessin d'artiste de série quelconque. Être à toute extrémité, à la proue d'un Finistère, lancé seul, enfin seul, comme une impasse errante, un bout de vie sans issue, un bâton d'aveugle, un Oedipe à colonne érudite, une alvéole palpante, animale, une phalange d'arbres suppliant par ses feuilles, tirant sur ses racines, harcelant le vent qui passe, s'arrache, s'éloigne, une ventouse de plus, une puissance de faux, une créance de plus à chaque naissance sur l'être insolvable, une malédiction de plus toutes les secondes, un job supplémentaire dans l'ingratitude, un Isaac leurré à toute toison. À quoi donc nous préparons-nous? À la déterrestration? À la guerre contre les météorites? À la troisième mondiale? À la paix perpétuelle? À la procréation assistée? À la maîtrise eugéniste, à l'écran total. Michel Deguy, à ce qui n'en finit pas, traîne. Nouvelle édition, revue augmentée, aux éditions Seuil. Nous allons maintenant écouter un poète-chanteur qui habite maintenant la région de Perpignan, mais qui a été souvent, qui a été domicilié à Toulouse, dans la région toulousaine, pour lequel nous avons eu le plaisir avec Claude de faire une émission avec lui, mais il y a une bonne trentaine d'années. Il s'agit de Jean-Claude Ettori. Alors Jean-Claude Ettori, je l'ai revu il y a peu de temps, il va très bien, il est toujours aussi créatif. Et je pense que nous allons organiser une émission de nouveau avec lui. Mais d'ores et déjà, je voudrais que vous l'écoutiez dans deux morceaux. Le premier s'appelle « La fille du hasard » et le second s'appellera donc « La course au billet ». Mais commençons par « La fille du hasard ».
Longtemps cherché, jamais trouvé, puis rencontré dans le TGV, devant un thé très très sucré, yeux maquillés, très bien roulés. On a parlé, le train filait. Je la regardais, je l'écoutais. La fille du hasard, ça me fait tout bizarre. Dans cette gare, quelque la fille du hasard, ça me fait tout bizarre. Un coup de rasoir dans le regard, je l'ai suivi dans la noire nuit, tout étourdi de cette envie, plein de confettis, très très groggy, nouvelle vie, en eau de vie, beaucoup épris de la jolie, je lui ai dit en son ifi, la fille du hasard, ça me fait tout bizarre, dans cette gare, quelque part. La fille du hasard, ça me fait tout bizarre, un coup de rasoir dans le regard, longtemps cherché et puis trouvé, mieux que rêver, enfin aimé, plus que jamais, pour plus rêver, charivari et harmonie, plus de maquis, c'est le paradis, très très envie de la jolie, la fille du hasard, ça me fait tout bizarre, dans cette gare, quelque part. La fille du hasard, ça me fait tout bizarre, un coup de rasoir dans le regard. La fille du hasard, ça me fait tout bizarre, dans cette gare, quelque part. La fille du hasard, ça me fait tout bizarre, un coup de rasoir dans le regard.
Ettori, donc la fille du hasard, c'était extrait de son album Vermentino. Pardon. Alors, avant d'écouter son deuxième morceau, La course au billet, je voudrais revenir un peu sur Michel Deguy qui dit dans ce livre dont je vous ai parlé. Il dit « La découverte de l'homme entre guillemets, comme mon semblable, mon frère, de cet être qui est en lui-même semblable à, être de pure semblance ou visage, cette découverte qui est notre avenir, si nous en avons un, se terrisera toujours du dernier vers du premier poème baudelairien. Mais les fleurs du mal ont le verso noir et ce déni de fraternité, on le sait, tourne son exécration vers les Belges. Dans « À celle qui est trop gaie », pièce condamnée, le sujet lyrique rêvait d'infuser son venin à sa sœur en pratiquant sur son corps de nouvelles lèvres sanglantes. Le venin qu'infuse Baudelaire à son frère belge, venin d'encre haineuse répétitive, effet de l'horreur d'être soi, de la haine de soi, du dégoût de sa propre déterminité, vulgarité, abjection. Alors, je propense à cette vulgarité, à cette abjection, en définitive, sa propre bêtise qui a fait horreur inconsciemment donc à Baudelaire. Et je pense à une phrase de Luc de Cône, qui a habité Toulouse, qui a fait ses études au lycée Pierre de Fermat, ici, qui était une famille très pauvre. Cependant, il vivait à l'époque à Blagnac, quand il était au lycée Pierre de Fermat. Luc de Cône qui a écrit « La fonction même du poème, c'est de nommer, de préserver, de sauver tout ce qui mérite de l'être face à la misérable activité des larves. Seul, il peut donner un sens, un avenir au contenu de l'existence, que le temps dégrade, que la bêtise avilit. Vous voyez que les deux pensées se rejoignent. Et alors, comme disait Michel Déguy, à quoi nous nous préparons? À quoi donc nous préparons-nous? À la déterrestration, à la guerre contre les météorites, à la troisième mondiale, à la paix perpétuelle, dit-il, à la procréation assistée, à la maîtrise eugéniste, à l'écran total. Et peut-être que nous nous préparons tout simplement, que pour cela, nous poursuivons la course aux billets. Voilà. Et nous allons écouter la course aux billets des Tories.
C'est la course aux billets pour se croire un peu mieux, pour arrêter ses rêves que l'on fait en dormant, pour pouvoir se payer cette femme d'Henri, pour changer de voiture, pour porter des dorures. C'est la course aux billets pour cette liberté, pour quitter ce trois pièces grand comme une cellule, pour pouvoir se payer ses vacances au pays, pour changer de boutique, se croire moins identique. C'est la course aux billets avec ses loteries, avec toutes ses histoires fausses comme des mirages, avec cette folie d'y croire une autre fois, avec cette attente pour ce mal qu'on enfante. C'est la course aux billets quand l'espoir n'est qu'un mot, c'est l'histoire répétée pour effacer l'usure. Cette femme d'Henri qui s'est courbée aussi, car dans sa fausse vie, elle disait toujours oui. C'est la course aux billets avec ses élections et ses hommes d'action qui changeront la vie en sachant très bien qu'à la fin du mois, c'est pour un salaire qu'on se laissera faire. C'est la course aux billets pour cette liberté, pour quitter ce trois pièces grand comme une cellule, pour pouvoir se payer ses vacances au pays, pour changer de boutique, se croire moins identique. C'est la course aux billets pour se croire un peu mieux, pour arrêter ses rêves que l'on fait en dormant, pour pouvoir se payer cette femme d'Henri, pour changer de voiture, pour porter des dorures. C'est la course aux billets des maisons d'édition pour un roman concours de plus basse sensation qu'on achète l'été sur un coin de sable, la couverture tachée par la crème à bronzer. C'est la course aux billets pour cette liberté, pour quitter ce trois pièces grand comme une cellule, pour pouvoir se payer ses vacances au pays, pour changer de boutique, se croire moins identique. C'est la course aux billets pour se croire un peu mieux, pour arrêter ses rêves que l'on fait en dormant, pour pouvoir se payer cette femme d'Henri, pour changer de voiture, pour porter des dorures. Sont billets pour se croire un peu mieux, pour arrêter ses rêves que l'on fait en dormant, pour pouvoir se payer cette femme d'Henri, pour changer de voiture, pour porter des dorures.
Jean-Claude Ettori, la course aux billets. Alors, je voudrais vous parler également de Louis Brocquier. Louis Brocquier, puisque les éditions La Table Ronde, dans cette collection La Petite Vermillon, dont j'ai vanté quelques livres dans les semaines qui ont précédé, on ne dira jamais assez de bien sur cette collection. Cette collection qui a repris d'ailleurs l'anthologie des poètes bretons et qui là reprend Je connais des îles lointaines, les poésies complètes de Louis Brocquier. C'est une édition présentée par Olivier Frébourg que je vous invite à vous procurer, étant précisé que ce livre ne vous coûtera que la somme de 10,50 €. Alors, dans la quatrième de couverture, l'éditeur indique ceci. Il existe une légende autour de Louis Broquier, comme autour de Levé, de Toulette et de Larbeau. Né en 1900 à Marseille, mort en 1976, agent des messageries maritimes, donc un grand marin, Louis Broquier, très grand marin. Broquier fut en poste à Sydney, Nouméa, Alexandrie, Djibouti, Shanghai et Diego Suarez. Loin des modes, des écoles et des engouements de son époque, cet homme libre, fier de son métier de négociant, consacra sa poésie au monde maritime, au mouvement des navires, à l'attente dans les ports et à la vie ailleurs. Dans son voyage en Chine, Jules Roy, qu'il avait rencontré, a écrit « Mon ami Broquier connaissait la gloire d'être l'un des plus grands poètes vivants méconnus et s'en trouvait orgueilleusement bien. » Alors, il ne faut pas qu'il reste un des plus grands poètes, alors vivant il ne l'est plus bien sûr, mais un des plus grands poètes méconnus, et il faut donc lire et faire reconnaître Louis Broquier, je connais des îles lointaines. Donc c'est un poète et un peintre donc marseillais, on l'a vu, il est né en 1900 à Marseille. Et c'est un poète qui en 1970 fut récompensé du Grand Prix de poésie quand même de l'Académie française pour son recueil « Feu d'épave ». Il a écrit également un roman qui s'appelle « Aux armes de Cardiff » qui a été publié après, je crois, en 2000, donc c'est un roman posthume, aux éditions de La Table Ronde, que nous saluons pour ce magnifique travail. Alors, on va reprendre un petit peu la chronologie peut-être de la biographie de Louis Broquier. Il naît donc le 14 août 1900 à Marseille. Il a une enfance à Saint-Myrtre-les-Remparts et à Marseille. Il est élève au Sacré-Cœur. Il étudie au lycée Thiers. C'est ce qu'on appelait, à cette époque, c'est un peu comme ce qu'on appelait le lycée Fermat, qui s'appelait le Grand Lycée de Toulouse. Mais là, c'était le lycée Thiers, c'était le Grand Lycée donc de Marseille. Et c'est là qu'il va faire la rencontre en 1918 du poète Gabriel Odilio. Et d'ailleurs, il va mourir en 1976, je dis ça de mémoire, mais il va mourir en 1976, en allant voir son ami Odilio, qui était hospitalisé, me semble-t-il, et il est mort d'une congestion cérébrale, Louis Broquier, en 1976. Alors, il a écrit des poèmes déjà, Les Adolescents, c'est des poèmes qui n'ont jamais été publiés, mais en 1918, il fonde la revue La Coupe avec Pierre Rouquette et Henri Roland. Ensuite, eh bien, il va publier Et l'au-delà de Suez, ce sont des poèmes qu'il publie à Aix dans la édition Le Feu. Et en 1923, il aura le prix de poésie Catulle Mendès. C'est un numéro de la revue Fortunio, hein, qui était une revue à l'époque très, très diffusée, très, très lue, qui lui est consacrée donc en 1923. Alors entre-temps, ben, il avait fait son service militaire, alors c'est après la guerre de 14, hein. Donc l'Allemagne est occupée et on envoie les soldats en Allemagne. Et donc Louis Broquier a fait son service militaire dans cette Allemagne occupée. Et puis il a passé une licence en droit. Et cette licence en droit va l'amener à se présenter au concours du commissariat de la marine marchande. Il va donc naviguer sur les lignes de Méditerranée, sur la ligne de l'Extrême-Orient. Voilà. Il va se marier avec Georgette Gautier. Il va devenir membre du personnel des agences extérieures des messageries maritimes. Et en 1926, il va publier le Bar d'Escale. Le Bar d'Escale sont des poèmes. Il publie toujours à Aix, toujours aux éditions Le Feu. Et puis, il va être en poste de 1926 à 1929 à Sydney. Et puis, il sera en poste de 1930 à 1933 à Nouméa. Il va être détaché comme sub-récargue sur le Saint-André, qui fait le service des Nouvelles Hébrides. 94 mouillages dans toutes les îles de l'archipel. Hein. Donc, il connaissait tout ça, Louis Broquier. Et puis, enfin, de 1934 à 1939, il va être en poste à Alexandrie. Alors, pendant toute cette période, donc, il voyage beaucoup, il publie. Il publie Océanie, dans la Nouvelle Revue Française, hein, c'était en 1930, hein, c'est une revue prestigieuse. Hein. Il revue Eau douce pour navire, chez Gallimard, à Paris. Il publie Pythéas, 1931, c'est un poème dramatique. Il publie à Marseille, et devinez où ? Marseille, ça évoque tout de suite les Cahiers du Sud, eh bien oui, voilà, Louis Broquier donc collabore aux Cahiers du Sud en publiant donc ce poème dramatique, Pythéas. Et de 1934 à 1935, il va publier Du Pilote dans les Nouvelles littéraires, puis dans les Cahiers de Barbarie à Tunis. Il va faire jouer en 1935 à Orléans Pythéas par un groupe de théâtre d'avant-garde, qui s'appelait La Flamme. Alors, sur le plan professionnel, ce poète, puisque la plupart des poètes, pour ne pas dire la quasi-totalité, il y a quelques poètes qui sont en vérité ce que j'appelle moi des poéticiens, c'est-à-dire bon, des poètes qui vivent surtout de subventions publiques, de la poésie, et qui sont donc des poètes professionnels. Mais ce n'était pas du tout le cas de Louis Broquier, puisque en 1937, il va être en intérim de 2 mois à Djibouti. Et puis, c'est la guerre. Guerre 39 qui arrive. Hein. Il est mobilisé comme caporal du génie à Toul. Puis, il va être interprète à l'armée anglaise. Alors, il va exercer cette fonction d'interprète du 16 septembre 39 au 18 juillet 1940. Alors pendant cette période, il va continuer à écrire, à travailler. Il collabore aux revues littéraires suivantes, les Cahiers du Sud, bien sûr, Commerce, La Criée, la Revue Europe, Le Feu, toujours, la Nouvelle Revue Française, les Nouvelles Littéraires, hein, qui était quand même une revue très, très diffusée à l'époque, très lue également, la Revue Poésie, à la revue La Rose des Vents, Tache d'encre et Yggdrasil. Enfin, en 1941-1947, il va être en poste à Shanghai. Il va passer 4 ans à Shanghai. Alors, Shanghai est occupé à cette époque-là. Hein. Nous sommes pendant cette guerre, donc il échappe à l'occupation allemande. Mais il se retrouve quand même à Shanghai et sous l'occupation japonaise. Et puis, donc il va publier quand même, pendant cette période, il va publier Liberté des mers, il va le publier en 1941 à Alger. Et puis, 1948-1951, il va être, la vie normale reprend, il va être en poste à Diego Suarez. En 1951, il sera à Saigon, c'est là qu'il va rencontrer Jules Roy, qui en dit tant de bien, Jules Roy. Et puis, en 1953, il sera en poste à Colombo. Là, c'est sa mère qui meurt en 1954. Et puis, en 1954-1955, il sera en Australie, donc à Sydney. C'est son deuxième séjour à Sydney. Il est déjà agent général des messageries maritimes. En 1956, il va être en poste à Alexandrie. Donc, on va voir, on en a parlé il y a peu de temps. Donc, c'est son deuxième séjour en Alexandrie. Et puis, il va faire l'expédition de Suez. Et après l'expédition de Suez, hein, on connaît le fiasco de ce qu'a été cette expédition franco-anglaise. Il est bien entendu expulsé. Et en 1957, il va retourner en poste à Sydney. Donc pour la troisième fois, il va séjourner à Sydney. De 57 à 60, il sera à Nouméa, de nouveau Nouméa. C'est là qu'il va rencontrer Maurice Brossard-Dubourg, qui est officier de marine et peintre. Alors, toute cette période, il collabore de 1940-1960 à toutes les revues, dans les Cahiers du Sud, le Courrier des Messageries Maritimes, les Essais, Fontaine et la Nouvelle Revue Française, bien sûr. Voici. Et puis en 1960, eh bien, il se retire. Il se retire où ? Ben, dans sa ville natale, à Marseille. Et c'est là qu'il va écrire. Il va avoir en 1962 le Grand Prix littéraire de Provence pour Vetabren. Or, il écrit également en provençal, le Broquier. Vous lirez d'ailleurs le texte qui est écrit dans les deux langues, provençal et français. En 63, il va être membre de l'Académie Ronsard, au fauteuil de Fernand Greg. En 64, il est membre du jury du Grand Prix littéraire de Provence. C'est là qu'il rencontre André Chanson. Je ne sais pas si on lit encore André Chanson. De 1964 à 1966, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, hein ? Il est à la retraite. C'est un fou de littérature et de poésie. Et à la radio. Donc, il fait des émissions radiophoniques de poésie sur Marseille-Provence. Voilà encore un poète qui est un homme de radio. Il a une émission qui s'appelle « Lire et relire hein ». Et puis en 1966, Gabriel Audizio, son ami, qu'il avait rencontré très jeune, son ami Gabriel Audizio, publie « Louis Broquier, poète d'aujourd'hui » à Paris, grâce à Pierre Segers, donc aux éditions Pierre Segers. En 1907, il fait une visite à Saint-Jean-de-Perse, il y va avec Jean Ballard. Et puis en 70, l'œuvre de Louis Broquier, il y a une thèse d'un certain Anderson de la section française de l'université de Melbourne au Canada, donc qui fait sa thèse sur l'œuvre de Louis Broquier. En 70, il y aura la publication de Feu d'épave à Paris, Gallimard, donc un recueil de poèmes. En 71, il obtient la médaille de la ville de Marseille. Ville, dit-il, je te choisis entre toutes les villes qui m'a donné le monde et qui m'en a sauvé. Phrase magnifique. Et puis j'aime beaucoup un homme qui a cet amour pour sa ville. Ça, c'est très important. Il a le Grand Prix de poésie de l'Académie française, dont je vous parlais au début, et il est membre du comité de rédaction de la revue Marseille. Et puis, c'est aussi un peintre. Donc il va peindre cette période, 1960-1976. Il poursuit une œuvre de peinture. Et il publie en 1976 « Ballade pour Fortuna », c'est un poème inédit. Il le publie dans « Courrier de la Compagnie Générale Maritime » numéro 6. Et puis, il meurt le 7 septembre 1976, donc même année 1976 que notre poète Jean Malrieux. Hein. Il meurt, lui, à Paris, d'une congestion cérébrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors qu'il se rendait effectivement au chevet de son ami Gabriel Audizio, qui était hospitalisé. Voilà. Voilà pour l'œuvre de Louis Broquier. Alors, je vais peut-être vous lire ces poèmes. Alors, un poème au poète Joseph Loubet. Alors, Joseph Loubet, ça a été un félibrige. Et figurez-vous qu'il y a peu de temps, j'étais à Sceaux, la ville de Sceaux, dans la région parisienne, dans la banlieue sud de Paris, où il y a un jardin, où il y a toutes les bustes des félibriges là qui ont effectivement, il y a eu un épisode et d'ailleurs tous les ans il y a une manifestation du félibre à Sceaux. Hein. Il y a un restaurant et un café qui s'appelle le félibre. Et donc Joseph Loubet, eh bien il a son buste dans ce parc magnifique de la ville de Sceaux. Et voici ce qu'il dit, Louis Broquier, de ce poète Joseph Loubet. Alors, c'est un poème qu'il a écrit en provençal. Je crois que je n'aurai pas le temps de le lire parce qu'il est quand même assez long. De le lire dans les deux langues. Peut-être lire juste un tout petit extrait en provençal et ensuite je vais le lire en français. O poeto José Loubet, ami, se me namans dins la gloria infernalo, vos avio rescontrat un matin virgilen, orio amat e per bressa l'aspre segren, par lesse vostre rues de la luz provençalo. Mai, es dins un cer clar, l'inde mediterranen, dins Marseille, ma vilo, unte la mare ven batre, que sus lis escalie, o lindo du gran teatre, nos rencontrere com un fraire calorent. Au poète Joseph Loubet, ami, si maintenant dans la gloire infernale, je vous avais rencontré un matin virgilien, j'aurais aimé que, pour bercer l'âpre douleur, me parlât votre voix de la lumière provençale. Mais c'est dans un soir clair, pur, méditerranéen, de Marseille, ma ville, où vient battre la mer, que sur les escaliers, au seuil du grand théâtre, je vous rencontrai comme un frère chaleureux. Et reste cette nuit si chère à ma mémoire. Ma jeunesse à mes lèvres était un fruit unique. La rive escarpée au crépuscule grec, un géant étendu fleuri de roses fraîches, nous parlâmes de poésie et de tristesse. Comme m'allait au cœur votre voix dans la nuit. Une flamme de paix était dedans vos yeux et conduisait à vous mon éternelle peine. Vous me parliez du mort, du noble ami, de celui-là qui gît tout seul dans l'autre plaine, où l'ombre, sa maîtresse et la terre gardienne veillent sur le grand calme où il s'est endormi. Si douces étaient pour moi ces paroles, que je sentais mon âme à genoux devant vous, couler en pleurs qui me semblaient très doux, ô bel ami, que ce fut bon pour ma blessure. C'est pourquoi, s'il vous faut, qui le sait ? Quelques jours, ma jeunesse et mon cœur et mon sang si brûlant, en quelques lieux du monde où ma chair va et vient, tout droit à votre appel, j'irai avant la nuit. Ah. Louis Broquet, je crois qu'il me faut maintenant céder l'antenne, c'est bien dommage. Mais nous continuerons donc sur cette œuvre de Louis Broquet, Je connais des îles lointaines. Je voudrais peut-être finir sur un texte un peu plus court. Pipe le soir sur la véranda australe. Je voudrais être assis au café du commerce et je voudrais parler en français au garçon. Je voudrais qu'un ami me tape sur l'épaule et dise « Il y a longtemps que je n'étais plus vu ». Alors je répondrai « J'avais quitté la France ». C'est le plus beau pays pour ceux qui sont au loin. Rien ne vaut à midi les cafés de Marseille. Ou bien, peut-être aussi, ne lui dirai-je rien. Et nous boirons. Je chercherai ce qui l'attend. Quelle révélation venue des antipodes. Les yeux contre la rue, je fumerai ma pipe en repassant les jours et les nuits de Sydney. Voilà. Louis Broquet, Je connais des îles lointaines, sont des poésies complètes éditées donc par les éditions Table Ronde dans sa collection La Petite Vermillon, collection de poche, donc à la portée de tout le monde. Et c'est merveilleux de pouvoir ainsi avoir ce condensé donc, de cette œuvre magnifique d'un poète. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adios.